Alors, ce matin, tu parlais des affres et des gens qui pensent avec effroi à l'expansion urbaine et à la verticalité. Dans les années 30, il y a eu vraiment, avant la crise, une expansion très très importante de l'immobilier à New York, à Manhattan, et notamment de l'immobilier de bureau, et qui a abouti à un certain nombre de projets, et qui a permis à un certain nombre d'architectes de s'exprimer, et notamment à des architectes qui faisaient des perspectives. Et le plus célèbre, donc, c'est Hugh Ferris, qui faisait donc des rendus, comme on a connu pour ceux qui ont bossé sur Paris. Il y avait Milo Roman qui faisait des rendus, c'était avant qu'il y ait de la 3D et de l'ordinateur. Et donc Hugh Ferris a fait ce dessin-là qu'on ne voit pas bien en haut à gauche, où on a un homme qui est face à cette espèce de Manhattan tel qu'il est en train de devenir dans les années 30. Et derrière lui, il y a la petite fermette avec la petite cheminée qui fume, et il est en train de partir de là. Et le débat qu'on a eu ce matin sur cet espace intermédiaire entre le périurbain et la ville hyper centrale est encore plus exacerbé sur des situations comme New York. Juste un exemple d'illustration, ça c'est l'Empire State Building. Avant, il y avait un hôtel dans les années 30, enfin avant en 1925, qui s'appelait le Waldorf. Et avant, vous avez la succession des petites maisons et des bâtis qui ont été faits là. Alors, ça ne veut pas dire que n'importe quel bled périurbain au milieu de nulle part va devenir un Manhattan, mais la capacité de transformer le foncier en multipliant les sols, c'est quelque chose qui est possible, qui est finançable, si c'est pertinent économiquement et si ça correspond à l'intérêt. Vous avez à gauche, il y a un site qui est assez intéressant, un site internet qui s'appelle emporis.com. Vous avez pour chaque ville une vue du skyline comme ça. Et ce qui est assez effroyable, c'est que la plupart des grandes villes ont un skyline, donc un découpage des immeubles dans le ciel qui est complètement régi par les immeubles de bureaux. Donc il y a une consommation non seulement d'espace, mais de volume vertical des immeubles de bureaux qui est énorme. Donc là, vous avez plusieurs exemples. Donc ça, on est à Hong Kong. Donc on voit l'immeuble, c'est l'immeuble de la HSBC. On voit vraiment la volonté à la fois de la banque, de l'architecte, de vraiment multiplier le sol. Donc, si on reprend l'image qui date du début du 20e siècle, où on a une espèce d'étagère sur laquelle on reconstruit des terrains avec là symboliquement des petites maisons, là on comprend vraiment bien la nécessité, la volonté de recréer des plateaux et de recréer donc des surfaces pour démultiplier le sol. Pourquoi? Parce que Hong Kong, c'est une île et que cet endroit-là est très très enclavé et que tout le monde veut y être. Alors, quand on en arrive là, on a des situations où, d'un point de vue économique et financier, la valeur du terrain vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que la valeur du bâti. Et si le propriétaire du bâti a un droit et ne veut pas partir, et s'il est complètement déconnecté des réalités économiques et qu'on ne peut pas le faire partir, ben, on peut arriver à des situations où il ne part pas. Alors ça, c'est pas en France, c'est en Chine. C'est au milieu de la Chine, mais c'est pas n'importe où. C'est dans une ville qui s'appelle Chongqing, qui est une ville qui est vraisemblablement amenée à devenir une des plus grosses villes au monde en termes de densité urbaine, parce qu'elle est près du barrage des Trois Gorges et qu'elle est en train d'absorber un exode rural phénoménal. Et donc cette femme-là, qui, pour la petite anecdote, était la femme d'un ancien champion de kung-fu, donc s'est arc-boutée sur sa petite maison, que communément, on appelle ça maintenant les nail houses, c'est les maisons clous qui sont dans un terrain et qu'on n'arrive pas à enlever. Et ça a duré un petit moment. Bon, maintenant, elle est partie, hein, c'est rasé. Mais vous avez vraiment des situations, et ça, c'est vraiment une belle image, une belle allégorie, qui montre que souvent, le foncier vaut beaucoup, beaucoup plus cher que la maison qui est dessus. Et on n'a pas abordé aussi crûment le débat ce matin, mais d'un point de vue financier, la pression, elle est souvent pas uniquement d'imposer aux gens de construire un truc en face de chez eux, mais c'est carrément de les faire partir et de construire un truc à la place de chez eux. Alors vous avez plein d'exemples, hein, de types qui sont arc-boutés. Donc là, j'avais pas le film, mais il y en a un qui a mis du temps à partir. Bon, en fait, et je suppose qu'ils avaient vidé l'immeuble avant d'exposer, mais c'est pas sûr. Et puis il y a des petites maisons comme ça qui sont restées bloquées aussi. Vous avez des choses, bien évidemment, qui sont préservées, comme c'est Francis House à Manhattan. Mais en général, quand on peut, on démolit. Alors, j'aime bien cette image parce que l'immeuble que vous voyez là, au milieu, celui-ci, vous ne pouvez pas le voir à New York, c'est le Singer Building, c'est un immeuble qui a été construit au début du siècle précédent et qui a été démoli dans les années 70. Et lorsqu'il a été démoli, ça a été le plus gros immeuble jamais démoli au monde. Pour pour l'anecdote aussi, c'est un immeuble qui a été construit par Singer, Singer en français, la société qui faisait des machines à coudre. Et c'était plus un acte marketing que quelque chose qui correspond à des besoins, puisque cette société n'a jamais occupé plus que deux ou trois plateaux d'immeubles et le reste était fait à risque et offert à la location. Alors bien évidemment, malheureusement, il y a eu d'autres immeubles plus importants qui ont été démolis, puisque maintenant c'est les Twin Towers qui ont le triste record de l'immeuble le plus important démoli au monde. Si on reprend notre histoire et qu'on reste sur une logique où on a un immeuble qui fait 15 000 m2, qui rapporte 6 millions de loyers et qui est vendu 17 fois le loyer, donc qui vaut à peu près 114 dans cet exemple-là. Donc on a ici la valeur de l'immeuble. Donc si on suppose que ça c'est le coût de construction, la marge nécessaire, la valeur du terrain sous l'immeuble est 52. Si vous poussez les curseurs et que vous considérez que vous pouvez augmenter le droit à construire et passer à 35 000 m2, que du coup vous allez faire un immeuble d'un standing complètement différent, qui va soulever 600 euros, qui va correspondre à une vraie demande, qui va être pérenne, donc qui va se vendre plus cher, qui va se vendre 21 fois le loyer. Donc vous voyez un peu ce qui se passe. Donc ça va vous coûter plus cher, parce qu'il va falloir démolir, reconstruire. C'est une opération qui a un risque. Vous allez prendre des risques, donc vous allez être beaucoup plus rémunéré. Mais regardez l'impact que ça a sur le foncier. Et donc là encore, la variable d'ajustement, c'est le foncier. Donc ces situations peuvent paraître excessives, mais elles existent. Donc vous avez des cas de figure où vous êtes amené à prendre le risque, en gros, de racheter ça, de dépenser ça pour construire. Vous rémunérez ce risque, ça a une vraie valeur. Là, en espèce, vous faites un gain de 90 pratiquement par rapport à l'autre. Celui qui prend le risque fait un gain de 80 par rapport à la situation d'origine, mais celui qui est dépositaire du foncier fait un gain bien, bien plus énorme. Donc par rapport au débat qu'on a eu ce matin, je connais pas bien l'exemple danois, mais c'est sûr que soit on prend le pognon à la source, soit on le prend jamais, quoi, parce que les choses sont, les montants sont énormes, et on aura du mal à les rattraper derrière. Cette image-là, donc vous voyez Manhattan ici, donc vous pouvez imaginer, Lyon est une ville qui est bâtie pour partie sur une île, où on a une verticalité très très importante malgré l'ancienneté des immeubles, parce qu'il y avait une rareté foncière. Là, c'est un petit peu la même chose à Manhattan, et Manhattan est en train de vivre une expansion urbaine de l'autre côté de la rive, ici sur New Jersey, mais aussi de l'autre côté de la rive de l'autre côté. Donc là, vous avez juste en face, là, vous avez l'ancien site de Ground Zero, les Twin Towers. Donc vous êtes au sud de Manhattan, dans Wall Street, et juste en face, on commence à construire. Goldman Sachs a construit un immeuble de bureau ici, et on commence à y construire aussi des immeubles résidentiels. On ne voit pas, mais il y a un tunnel qui permet d'aller de là à là. Et donc là, on a un très bon exemple d'un immeuble d'habitation qui est fait par Trump. Il aurait pu s'arrêter là, il aurait une certaine profitabilité. Et il ne s'est pas du tout arrêté là. Et c'est un condominium qui fait un nombre impressionnant d'étages. Donc vous imaginez la capacité de générer une valeur foncière extraordinaire par rapport à un site qui ne correspondait à rien au départ et qui n'existait pas. J'ai le souvenir, lorsque j'ai commencé à travailler il y a pratiquement une vingtaine d'années, que dans l'euphorie de la surproduction de bureaux à l'époque, il y avait pas mal de maires dans des communes vraiment très très périphériques de Paris qui voulaient quasiment reconstruire la Défense à côté de chez eux, quoi. Ils avaient vraiment envie d'avoir plein de TP, donc plein de bureaux, plein de choses, mais il faut aussi que ça corresponde à un besoin. Donc la proximité de la densité est vraiment un facteur de pertinence pour de la construction. Bon, là c'est un petit peu excessif peut-être, mais on a vraiment ces phénomènes très importants. Alors bien évidemment, donc ça c'est un graphe qui est très ADEF, hein. Vous avez une espèce d'évolution dans le temps de la valeur foncière. Vous avez à un moment donné la valeur foncière qui est liée à la valeur du terrain plus la valeur de l'immeuble qui est dessus. Alors c'est pas forcément toujours ces proportions-là. Parfois la valeur du terrain est énorme. On l'a vu dans l'exemple tout à l'heure en Chine. Et au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, vous avez une obsolescence de votre bâti. Donc la valeur de l'immeuble décroît. Et à un moment donné, elle peut même décroître à un point tel qu'il n'est plus louable, qu'on ne peut plus rien en faire, et que la seule valeur que vous avez de votre bien, c'est en gros la valeur du terrain, du droit à construire résiduel, moins éventuellement les coûts d'émulsion. Alors, quelques exemples encore d'hyper densité et centralité, mais toujours pareil sur sur les contraintes de proximité d'un endroit central et de limites extrêmes. Donc ici, la limite, c'est le lac. On est à Chicago. Donc là, vous avez une tour de 600 mètres d'habitation qui est censée être la plus haute tour d'habitation. Je dis censée parce que Le promoteur qui a commencé à construire cette tour a en ce moment des problèmes avec ses banquiers et il n'est pas sûr de pouvoir financer. En gros, il est poursuivi en justice parce qu'ils sont en train de couper les robinets du financement. Alors, l'autre exemple qui est un peu plus hallucinant, c'est Dubaï. Parce que là, on a une énorme spéculation immobilière, alors qu'on n'a pas forcément de rareté foncière puisqu'on est dans le désert. Et il n'y a pas d'endroit. Bon, et le linéaire de côte est quand même assez important. Et en gros, vous avez sur Dubaï deux types d'activités constructives aujourd'hui. Vous avez une activité que je qualifierais de résidentielle, où là, le linéaire de côte est très très important. Donc là, au lieu, c'est un exemple, c'est complètement fou hein, ce qui se passe à Dubaï, mais c'est un exemple théorique qui est très très intéressant. Au lieu de multiplier le sol, là pour créer de la valeur et pour garder une espèce d'aménité qui est en gros une espèce de petite maison, un petit immeuble de suite limité en étage, l'enjeu fondamental, c'est pas de multiplier la hauteur pour le résidentiel, c'est de multiplier le linéaire de côte. Donc c'est ce qui aboutit à ces formes-là, en forme de panne, et avec ces constructions-là, Dubaï a multiplié par un coefficient faramineux son nombre de linéaires de côte. En revanche, la ville historique de Dubaï est ici. Dubaï, c'est en gros un bout de désert au milieu de nulle part où il y a une crique et où les bateaux venaient s'abriter de temps en temps. Et au départ, il y avait 2000 habitants à Dubaï. Aujourd'hui, il y en a 1,5 million. Et au centre de Dubaï, ici, il y a la route qui va à Abu Dhabi. Et donc, c'est la Sheikh Zayed Road. Et donc là, tout le long de cette rue-là, il y a une énorme densité d'immeubles de bureaux, très verticaux. Et un peu au nord, ici, de cette route-là, il y a le fameux immeuble qui est parti pour être l'immeuble le plus haut du monde. J'y suis allé il y a quelques semaines. Il est effectivement très, très haut. Je ne suis pas sûr qu'il serve à grand-chose. Il est vendu de façon spéculative, mais il est vraiment très, très haut. Là, vous avez un autre exemple de densité urbaine qui est Sao Paulo. C'est une des villes les plus étranges que j'ai eu l'occasion de voir parce que c'est un peu la défense, mais sur 20 km par 20 km. Quoi. Moi, je l'ai survolé en hélicoptère, ça s'arrêtait jamais, il y avait des immeubles partout. Mais contrairement à la défense, ce sont des immeubles d'habitation. Donc, c'est un des rares exemples que je connaisse de ville qui est à ce point basée sur une si forte densité d'habitation. Et ce qui est très, très intéressant dans cette ville, c'est qu'elle conserve quelques petits havre foncier comme ça au cœur de ville. Ce que vous voyez là avec des toits en tuiles rouges, c'est une ancienne clinique qui s'appelle Materazzo, qui fait l'objet d'une forte pression foncière aujourd'hui et il y a pas mal de projets de restructuration, mais elle est un petit peu préservée, donc elle va dominer au mieux. Mais vous imaginez le prix que peut avoir ce foncier-là, mais au-delà de ça, le risque économique que constitue la volonté de développer une opération sur un foncier comme ça. Parce que pour pouvoir l'acheter, comme on l'a vu tout à l'heure, il va falloir être à la hauteur des attentes du propriétaire du foncier, donc prendre des risques. Souvent, vous risquez de développer ce genre de projet dans une situation d'euphorie économique et de forte compétition. Donc vous êtes obligé de payer plus cher qu'un autre pour être sûr de l'avoir, alors que ça va vous prendre 2, 3, 4 ans pour développer le projet, que vous risquez de mettre sur le marché votre produit final à un moment donné où vous serez dans la crise et donc vous pouvez gagner de l'argent comme vous pouvez en perdre. Autre exemple, Shanghai. Ce qui est assez intéressant à Shanghai, c'est qu'on a une vision assez importante de la verticalité quand on pense à Shanghai, notamment à Padong, là, c'est ce qu'on voit là. Mais en fait, tout autour de Padong, on a des zones qu'on ne voit pas bien ici, mais qui sont des zones très très plates, très très peu denses. Ça doit être du R+R+2 maximum. C'est beaucoup d'entrepôts, de la logistique, des choses comme ça. Donc on a aussi là encore un potentiel d'expansion très important. Alors quand on revient à des choses plus proches de nos réalités, et notamment plus proches de nos réalités, de ma réalité parisienne pour moi qui suis parisien, je m'en excuse auparavant pour les gens qui sont en Provence, mais on peut par allégorie étendre la réflexion. Donc vous avez dans Paris une forme de construction qui est déterminée, je dirais prédéterminée, qui existe, qui préexiste et qu'on pourra difficilement changer. On ne va pas raser Paris. J'étais petit, mais à l'époque de la construction de la tour Montparnasse qu'on voit ici, il y a eu une levée de boucliers. C'était l'époque pompidolienne, où on a fait les voies sur berge, où on essayait d'amener de la modernité sur Paris. Et très vite, alors je ne sais pas si c'est par malthusianisme ou par égoïsme, la population s'est un peu opposée, comme l'équivalent des copropriétaires de petits pavillons qu'on a vus ce matin dans le périurbain, pour se poser contre cette expansion, et Paris n'est pas devenu comme Manhattan. Peut-être à l'exception de la, de la défense qu'on voit en rouge là-bas. Mais on a encore des possibilités d'expansion urbaine et de densité dans la région parisienne, et donc de nécessité d'aménagement et de prise de risque foncière et immobilière, et donc de problématiques de financement. La partie que vous voyez en jaune, ce sont les terrains Renault. Donc quand on le voit sous cet angle, vous voyez à gauche l'usine telle qu'elle était, et donc là vous avez l'île Seguin et en face les terrains sur Boulogne. Donc on a une zone foncière qui est énorme. Et quand on regarde le devenir de ce site-là en termes de réflexion, de paramétrage, de programmation de ce qu'on peut y faire, de risques financiers, de positionnement dans la crise, c'est un exemple qui est assez intéressant et qui est assez édifiant. En gros, et d'ailleurs un éminent urbaniste, Subillot, il a eu le Grand Prix de l'urbanisme, ou je sais pas comment ça s'appelle le titre, Prix Nobel de l'urbanisme, on va dire, le Grand Prix de l'urbanisme, a été à un moment donné, maintenant, je sais pas, il y a eu des fâcheries des partis, conseiller de l'aménagement urbain de cette partie-là. Pour la faire courte, au risque d'être caricaturale, qu'est-ce qui s'est passé ? Très vite, l'idée était d'essayer de densifier à certains endroits, de faire du bureau, parce que c'est quand même ce qui rapporte du fric, de faire du logement, parce que s'il y a du besoin, et ça rapporte de l'argent, le logement, et j'y reviendrai, et aussi de faire un peu autre chose, de faire du parc, de faire de la culture, etc. Bien évidemment, on leur a pas demandé leur avis, mais les gens qui habitent à la périphérie, ils auraient préféré qu'il y ait un parc. Hein. Mais bon, c'est pas ce qui s'est passé. Et en gros, les tergiversations sur l'île, à ma connaissance, continuent toujours. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui va être fait sur l'île. Au départ, ça devait être la fondation de Pinault, mais il a décidé d'aller plus loin. Donc ça va pas être la fondation de Pinault. Donc je ne sais pas trop quel est l'état de l'aménagement sur l'île. En revanche, la partie sur les terres, elle, est assez avancée. Et on a pas mal d'opérations de bureaux qui sont sorties là. Et on a des opérations de logement derrière. Ce qui est très très intéressant dans cet exemple-là, c'est que ça a pris tellement de temps qu'aujourd'hui, les gens qui sont porteurs d'opérations de bureaux sont énormément en risque aujourd'hui. Parce qu'il y a une récession qui est en train d'arriver sur le marché locatif de bureaux, et faire des bureaux à cet endroit-là, c'est en risque. Alors que ça dépend un petit peu du montant qu'ils ont payé pour le foncier, mais la demande en habitation-là, elle est constante, tant bien même vous êtes à, je sais pas, 6 000 euros du mètre à cet endroit-là pour le mètre carré d'habitation. Donc on est passé dans une situation où il y a eu un tel essor des prix du logement dans les zones très très urbaines comme la région parisienne, où le risque, déjà où sur certains aspects de faire du logement, ça rapporte plus que de faire du bureau, alors que moi j'avais plutôt connu des années où les gens démolissaient des logements pour foutre des bureaux à la place, mais où surtout il y a beaucoup moins de risques à faire du logement qu'à faire du bureau. Pourquoi ? Parce que le logement il est préfinancé par les accédants. Alors que le bureau, vous le faites à risque. Vous êtes obligé de prendre le risque de le construire, d'espérer d'avoir des locataires, et ensuite d'espérer qu'il y a des investisseurs qui vont vous l'acheter. Ce qu'on voit en haut, c'est une maquette, mais ce n'est pas définitif de ce qui va s'y faire. Ça, c'est pareil, mais c'est à Londres. Donc Londres, c'est pareil, hein, c'est une ville qui est plutôt plate, qui ne ressemble pas à Sao Paulo comme on le voit en bas, même s'il y a des zones un peu de centralité. Et à Londres, donc là j'ai pris un exemple qui n'est pas forcément représentatif, mais c'est à une place qu'on appelle Aldwych, donc c'est une espèce de croissant comme ça, assez central à Londres, où on a un immeuble, je ne suis pas architecte, mais qui correspondait, je sais pas, à l'école de Chicago avant, quoi. C'était des trucs avec beaucoup d'ornements, mais d'avant, il y a très très longtemps, donc il y a une espèce de gâteau qui a été démoli pour faire un truc plus années 30, et qui est encore démoli pour en faire un autre. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On a une espèce de valeur de la centralité qui permet de rénover, mais sans créer de densité. Et c'est en général assez rare. C'est assez rare que vous ayez les moyens de péter un immeuble pour en faire un autre qui a la même taille et gagner quand même de l'argent. En général, la seule façon de gagner de l'argent, c'est de faire une extension. Ce qui est intéressant dans cet exemple de Manhattan, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de cette partie-là, là, qui est en train de... Ça, c'est l'immeuble de Goldman, donc qui est en train de monter. Et cette partie-là aussi est en train de monter. Cette photo n'est plus du tout d'actualité. Maintenant, il y a une rangée d'immeubles d'habitation de très grande hauteur tout le long de la berge de l'autre côté. Donc il y a cette expansion. Et quand vous vous baladez dans Manhattan, qui est un truc assez sympa à faire, vous, ici, vous arrivez de temps en temps à trouver des fonciers comme ça, qui correspondent à des tours qui n'étaient peut-être pas suffisamment hautes, qui sont rasées et qui vont faire l'objet d'une autre construction. Vous avez des sites comme Battery Park ici, où il y a une espèce d'invention urbaine un peu nouvelle, plus sage, plus raisonnée, qui est très très dense par rapport à ce que l'on connaît, mais on essaie de faire une qualité qui, pour partie, est basée sur la non-densité. Ça, c'est un site qui est derrière Madison Square, si je reviens. Voilà, c'est un site... Ah ! C'est un site qui est ici. Donc, c'est un peu l'équivalent de nos terrains Renault à nous, quoi. Donc, ce sont des sites qui sont derrière la gare, donc qui n'étaient pas une zone très, très reconnue ou très, très qualifiée d'un point de vue urbain, comme toutes les zones à proximité des gares, et sur lesquelles, il y a un énorme projet. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas demain la veille qui va être financé, je pense qu'il ne va pas se faire tout de suite, mais il y a pas mal de réflexions possibles. Donc si on essaie de conclure un peu sur tout ça et de revenir après ce petit voyage qui avait pour seul but de vous garder éveillé après le déjeuner, si on revient à nos problématiques de financement proprement dites, et si on prend un exemple assez simple, dans la continuité de l'axe historique, après la Défense, il y a un certain nombre de terrains qui sont en train de se libérer, pas parce qu'on a viré le cimetière qui est là, mais simplement parce qu'on repense la façon, l'endroit où a passé la Nationale, le RER, etc. Donc on arrive à générer possiblement des sujets de réflexion foncière. Si on prend un exemple d'une parcelle où on peut faire 13 000 m2 de chaume, donc à peu près 12 000 m2 d'utile, et qu'on réfléchit un petit peu à la problématique financière du lancement de ce projet. Est-ce qu'on le fait comme on le fait et comment on essaye d'arriver à le financer ? Donc on voit à droite qu'on suppose que c'est quelque chose qui va coûter 35 millions à construire et qu'on va réussir à louer ça à 400 euros du mètre. C'est peut-être optimiste aujourd'hui, donc ça fait 5 millions de revenus et que ça va se vendre 20 fois le revenu. C'est super très très optimiste aujourd'hui, donc c'est-à-dire 100 millions. Juste pour vous dire, ça c'est une planche que j'ai faite il y a un an pour un cours à l'INSEAD, et il y a un an, ces chiffres étaient d'actualité. Si je prends la même planche et que j'adapte le niveau locatif, on est au même endroit, on est à Nanterre, et le taux de cap, je pense qu'aujourd'hui, je serais super content de louer à 350, donc par rapport à 417, donc j'ai perdu quand même pratiquement 20%, peut-être pas, mais pas loin, et le vendre 5% de taux de cap, je pense que c'est complètement irréaliste, je pense que je le vendrais à 6%, donc c'est-à-dire 16 fois le loyer et pas 20 fois. Donc en gros, au lieu de le vendre 100 millions, je vais plutôt le vendre 80 s'il fait beau, mais plutôt 75 en un an. Et je suis content si je trouve quelqu'un qui est intéressé par l'acheter et surtout qui arrive à se financer. Donc si je regarde un petit peu ce qui se passe et que je prends en compte cette problématique financière, donc je vais avoir un chiffre d'affaires de mon opération qui va être lié à 100, qui va être mon prix de revente, et à 15, qui en gros je vais encaisser, je vais le garder un petit peu, je vais le garder 3 ans, après ce qu'on voit en bas, après la livraison. Et donc, je vais encaisser 3 ans de loyer, donc je vais être à 115. Et en face de ça, je vais avoir 80 de coûts de production, et donc je vais faire un profit de 34. Si je regarde un petit peu dans le détail ce qui se passe, pour faire simple, je vais payer 35 pour le terrain, 35 pour les constructions, un peu moins de 5 pour tous les frais, et surtout pour celui qui va s'occuper de me construire tout ça, 6 de frais financiers, et donc j'ai un profit net de 25, puisque je vais quand même faire de payer des taxes sur le gain en capital, que ici j'ai mis 8,4. Alors si on s'arrête 2 minutes sur les taxes sur la plus-value, dont on a parlé ce matin, alors je ne sais pas comment ça se passera en matière d'aménagement, puisque pour l'instant ça n'existe pas, mais en matière immobilière, en général, personne n'a payé la taxe. C'est-à-dire que les gens dont l'activité principale est de générer et de capter de la plus-value immobilière, ils le font au travers de structures qui historiquement étaient luxembourgeoises, et maintenant que c'est plus possible, on trouvera d'autres solutions, qui font qu'il n'y a pas de plus-value, quoi. Parce qu'en gros, il y avait un truc qui était complètement débile, il y avait un traité binational entre la France et Luxembourg, qui était tel que ni la France ni Luxembourg ne prenaient des taxes sur les plus-values réalisées par les sociétés. C'est ça, Marc, hein ? Marc Leban est arrivé, on va raconter ça très bien tout à l'heure. Donc là, je l'ai mis pour mémoire, mais en général... On a les 8,4 en plus dans la poche. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est, pour revenir à notre problématique du début, comment est rémunéré le risque que l'on prend. Sur une opération comme celle-là, on a pris le risque de produire quelque chose dont on espère que la valeur future sera 100, mais ce n'est pas sûr, puisqu'on l'a vu aujourd'hui, elle est de 80, on espère aussi que ce que l'on a produit nous permettra d'encaisser un certain nombre de loyers pendant une période. Et si on sépare en gros le profit qu'on a vu tout à l'heure en deux composantes, on a 22 de plus-value nette, ce qu'on voit à droite là-bas, qui rémunère le risque qu'on a pris, et on a de 8 ici de revenus nets. Cette dichotomie des revenus, du profit entre le gain en capital et le revenu collecté est un élément essentiel. Souvent, vous êtes confronté, on est confronté à des gens qui vous proposent des opérations où vous êtes amené à prendre un vrai risque de production, mais votre risque n'est absolument pas rémunéré. C'est-à-dire que si vous faites un crash test et vous supposez que vous vendez juste un an après, c'est-à-dire que vous n'avez pas ça, vous n'avez pratiquement pas de profit. Parce que cette part-là est vraiment très petite. Et à l'excès, vous faites du profit global dans l'opération, c'est sûr, mais simplement parce que votre business plan suppose que vous allez garder le truc 6 ans. Donc vous avez 6 ans de loyer, mais au moment où vous livrez l'immeuble, vous n'avez pas rémunéré votre profit. En gros, vous avez pris des risques pour produire quelque chose, et ce que vous avez produit ne vaut pas beaucoup, beaucoup plus cher que ce que vous avez dépensé pour le produire.